France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'Ukraine, nous sommes 4 années jour pour jour après le début de l'invasion russe. Emmanuel Macron se dit ce matin très sceptique sur une paix à court terme. Nous allons nous arrêter longuement dans ce 13-14 sur les conséquences de ce conflit. En direct de Moscou, l'économie russe est en souffrance. En Lettonie, pays balte qui a remis le service militaire obligatoire. Et puis à Kiev, avec des dirigeants européens nombreux aujourd'hui, mais sans vraiment d'annonce pour les Ukrainiens. À suivre encore les difficultés des étudiants français à boucler leur budget.
Je peux me retrouver avec 50 euros pour finir le mois. Donc je finis souvent dans les rayons anti-gaspi ou alors l'épicerie solidaire de la Fage. Mais il n'y a pas tout. J'ai arrêté de manger le matin il y a 1 an. La viande, ça fait longtemps que j'en mange plus trop.
La faute au coût du logement, détail dans un instant. Le footballeur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, bientôt jugé pour viol. Son avocate annonce qu'elle va contester cette décision. Des tracts nazis distribués dans les boîtes aux lettres de Mulhouse. Les secrets du hennissement des chevaux. Enfin percé, on va vous expliquer. Et puis de la douceur remarquable pour un mois de février au menu météo de ce mardi. 22 degrés à Nîmes cet après-midi.
On est venu profiter du soleil et boire un petit café en terrasse. Ça doit bien faire un mois et demi qu'on a la pluie. On a beau dire que ça fait du bien au jardin, le soleil aussi fait du bien aux plantes et à nous.
Et les prévisions météo complètes dans une demi-heure. À partir de 13h30, notre invité a passé 1 an à faire des remplacements de médecins dans des régions qui en manquent. Ça donne ce livre Urgent, recherche médecin, signé Anaïs Vereschak. Elle vient partager son expérience, ses solutions et vous répondre. 01 45 24 7000. 13h50, des histoires de naissance et d'état civil dans le C'est la France de Cyril Petit. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la chanteuse Marie-Amélie Seignier, demande Étienne Dao.
Quand on aime les mots et quand on aime la musique, c'est une chanson qui parle de rencontres, d'amour, de hasard, de destin.
Ce sera avec Julien Baldacchino. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il pensait que ça ne durerait que quelques semaines. 4 années maintenant que les Ukrainiens font face à l'offensive russe. Un jour sans fin, a dit le mois dernier leur président Volodymyr Zelensky, citant le titre d'un célèbre film américain. Il y a 4 ans, 115 000 Ukrainiens avaient trouvé refuge en France. Ils sont encore 74 000 aujourd'hui, comme Laura, arrivée à Clermont-Ferrand en mars 2022. Elle y a trouvé l'amour. Juliette Micheneau, vous l'avez rencontrée.
Oui, dans l'appartement où elle vit maintenant avec son mari auvergnat, elle qui n'a jamais imaginé rester.
Jamais, parce que je pense que la guerre, elle est finie. Très vite.
Et puis voilà, les années passent, pas la guerre. À 54 ans, Laura travaille dur pour apprendre le français et puis elle rencontre Michel. Ils se sont mariés en novembre dernier.
Aujourd'hui, je reconstruis ma vie ici, en France. Je suis heureuse, oui, je suis amoureuse aussi. Mais ma cœur, elle est toujours restée en Ukraine.
Parce que là-bas, il y a ses parents, son fils qui n'a pas le droit de quitter le pays et sa fille qui reste pour son mari.
Et Laura vit la guerre au quotidien parce qu'elle a des notifications permanentes sur les bombardements. Elle est morte d'inquiétude à chaque fois pour sa famille.
Avec Laura, Michel est allé plusieurs fois en Ukraine. Il a été marqué par le silence de mort, brisé par les alarmes ou les bombardements.
Ces gens vivent dans un stress permanent en fait. Les coupures d'électricité sont permanentes. La moindre démarche que vous ayez à faire dans la journée, qu'elle soit administrative, un achat, n'importe quoi, elle est liée au fait que vous ayez de l'électricité. Donc les gens, dans leur tête, ils sont sous pression en permanence. Ils courent tout le temps, en fait. C'est insupportable.
En tout cas, votre rencontre, c'est une belle façon de reconstruire la vie, d'arriver à se projeter et à être dans un avenir ici en France.
Oh oui, c'est ça.
Oui. La vie, c'est l'espoir.
Oui.
Reportage ici, Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, où se tiendra ce soir un rassemblement commune 10 soirs, mais il y aura aussi des rassemblements ce soir dans de nombreuses villes de France. Ce matin, dans un message adressé en vidéo au Parlement européen, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait 7 demandes à ses alliés.
Today, we must be just as determined.
Aujourd'hui, nous devons être déterminés et forts, exactement comme nous l'étions quand l'invasion a commencé.
To receive a clear date for joining the EU.
Il est important pour nous d'avoir une date claire de notre accession à l'Union européenne. Et ce n'est pas un vœu en l'air, c'est comprendre comment Poutine agira. S'il n'y a pas de date, pas de garantie claire, il trouvera le moyen de bloquer l'adhésion de l'Ukraine pour des décennies en vous divisant, en divisant l'Europe.
Please,
S'il vous plaît, continuez à défendre le mode de vie européen. S'il vous plaît, soutenez l'Ukraine. S'il vous plaît, soutenez notre diplomatie pour la paix. Merci pour toutes ces années.
Slava Ukraini. Les mots de Volodymyr Zelensky ce matin, traduits par Sébastien Logeni. Illustration de ce soutien européen, plusieurs personnalités et chefs de gouvernement européens sont à Kiev aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou encore le président du Conseil européen, Antonio Costa. Mais aussi des dirigeants des pays nordiques et des pays baltes, symboles de l'aide à l'Ukraine, essentiellement supportée aujourd'hui par l'Europe, depuis l'élection aux États-Unis de Donald Trump. Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour.
Théo, vous êtes en direct de Kiev. Vous vous trouvez en ce moment sur la place Maïdan. C'est là que ces dirigeants se sont réunis ce matin.
Oui, Volodymyr Zelensky a accueilli notamment, vous l'avez dit, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, venue déposer une bougie ici à Maïdan, place de l'Indépendance, où se trouvent, vous savez, des dizaines de drapeaux jaunes et bleus et des portraits de soldats tombés au combat. Après leur départ, la place a désormais été rouverte au public. Quelques Ukrainiens sont venus rendre hommage à leurs morts, comme Max, venu s'agenouiller devant le portrait d'un militaire.
It's a sad day. I remember that 4 years ago, I was in Kiev.
C'est un jour triste. Je me souviens qu'il y a 4 ans, j'étais à Kiev, et mon père est parti à la guerre. Et maintenant, voici sa photo. Il était sergent dans l'unité d'assaut spécial Kraken. Souvenez-vous du prix de ce monde, du prix de votre paix. Souvenez-vous-en.
Just remember.
Voilà, Max qui a tenu à s'adresser aux Européens, les derniers vrais alliés de l'Ukraine, selon lui.
Merci Théo Renaudon en direct de la place Maïdan à Kiev avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Alors le bilan de cette guerre provisoire, évidemment, près de 2 millions de victimes si l'on prend en compte les blessés, les morts et les disparus. Les plus lourdes pertes sont pour la Russie, tout cela avec un gain limité. Vladimir Poutine a tenté de prendre Kiev il y a 4 ans. Aujourd'hui, il ne contrôle que 20% du territoire ukrainien. Le coût économique, dernière estimation de la Banque mondiale, 500 milliards d'euros pour reconstruire l'Ukraine, soit près de 3 fois le PIB annuel du pays. La Russie, elle aussi, paye le prix de ce conflit qu'elle a déclenché. Il y a des destructions sur son sol, même si elles sont moins nombreuses qu'en Ukraine. Il y a aussi une économie russe qui montre des signes de faiblesse. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant en direct de Moscou. Sylvain, les signaux négatifs s'accumulent pour l'économie russe.
Oui, alors officiellement, la Russie n'est pas entrée en récession. La croissance était encore légèrement positive fin 2025, mais effectivement, les signaux faibles s'accumulent, avant-coureurs de plus grandes difficultés. La chute de la production d'acier, par exemple, en est un. L'augmentation des défaillances sur les emprunts, les commerces, les restaurants notamment, qui ferment, l'effondrement du marché automobile. De nombreux économistes estiment que la Russie, en fait, a vécu sur ses réserves, réserves financières, réserves de main-d'œuvre, marges de production, mais toutes ces réserves sont épuisées aujourd'hui. Et tout cela manque désormais dans un contexte où, en plus, les recettes pétrolières et gazières sont historiquement basses en raison des sanctions, de la faiblesse des cours, avec des taux d'intérêt très hauts, 15-16%, qui entravent l'investissement, une inflation toujours forte. L'économie russe court donc au-devant de graves difficultés qui touchent déjà les couches les plus pauvres de la population et qui vont s'amplifier, causant peut-être, disent certains économistes, des dégâts irréversibles.
Alors, ces dégâts éventuels pourraient-ils pousser, Sylvain, Vladimir Poutine à mettre un terme à la guerre ?
Pour la plupart des experts, la réponse c'est non. D'abord parce que même si l'économie russe entre en récession, on a en réalité deux économies parallèles aujourd'hui. Le militaire, perfusé à l'argent public, au crédit subventionné, et puis le reste. Et la machine militaire, elle tourne à plein, elle contourne les sanctions. Sa limite est peut-être à aller chercher du point de vue de la ressource humaine, mais ce n'est encore apparemment pas le cas. Quant à un éventuel mécontentement social qui pourrait infléchir la position du Kremlin, il reste là aussi hautement improbable, tant parce que la récession, le verrouillage du pays est total, que parce que l'opinion ne fait pas forcément toujours le lien entre ces difficultés et la politique du pouvoir.
Merci Sylvain Tronchet pour cet éclairage. En direct de Moscou ce matin, la présidence russe affirme que ses objectifs de guerre en Ukraine ne sont pas atteints et que son opération militaire spéciale, c'est toujours le terme employé en Russie, que cette opération se poursuivra jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Ce qui pousse donc les Européens à se mobiliser. La France a lancé, on le sait, un service militaire volontaire. L'Italie y réfléchit quand deux pays baltes, pays frontaliers de la Russie, la Lituanie et la Lettonie, eux ont remis un service militaire obligatoire ces dernières années. Les Lettons l'ont décidé en dernier, en 2023, pour les jeunes hommes âgés de 17 à 23 ans. Et notre reporter Virginie Pironon a pu suivre ces jeunes soldats près de la frontière russe.
Apprendre à tirer au fusil d'assaut. Plongé par moins 25 degrés dans les eaux d'un lac gelé, c'est ici, sur la base militaire d'Aloukhsné, recouverte de neige, que 130 jeunes soldats reçoivent une formation de base. Cheveux rasés, Arat, 19 ans, s'est engagé dès la sortie du lycée, sans grand enthousiasme au départ.
Jamais je n'aurais imaginé ça, je ne l'ai dit à personne ici, mais j'ai tout fait pour être réformé. Ça n'a pas marché, alors j'ai fini par m'engager volontairement. Je voulais un défi, et puis cette année me permet de réfléchir à ce que je veux faire plus tard.
Le service militaire, j'adore, j'apprends beaucoup de choses. Comme tirer avec un fusil.
Dans son uniforme kaki, un peu trop grand pour lui, Calvis, 19 ans, parfaitement francophone, il passe toutes ses vacances depuis l'âge de 11 ans dans une famille d'accueil près de Toulouse, sort de son casier un fusil automatique, un G36, qu'il sait désormais démonter et remonter en un instant. Une guerre avec le voisin russe à moins de 30 km, il se sent prêt.
Je ne suis pas vraiment inquiet. On est dans l'Europe. Si ça arrive qu'il y a de la guerre, sûrement on va gagner.
Cette année, 1500 conscrits de 18 à 27 ans doivent être formés en Lettonie.
Reportage Virginie Pironon pour aller plus loin sur le thème de l'exil. Notamment, je vous conseille de réécouter notre entretien de vendredi dernier avec le comédien ukrainien désormais installé en France, Viktor Kirillov. C'était ici même dans ce 13-14.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est l'une des stars du Paris Saint-Germain, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec son pays, le Maroc, joueur très populaire auprès des supporters. Le footballeur Achraf Hakimi est depuis plusieurs mois accusé de viol par une jeune femme qui a déposé plainte. Bonjour Manon Lombard-Brunel.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et Achraf Hakimi va être jugé pour viol.
Oui, procès qui se déroulera devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine. S'escordonne aujourd'hui le juge d'instruction en charge du dossier. Il va donc dans le même sens que les réquisitions du parquet de Nanterre l'été dernier. Dans cette affaire, les faits remontent à février 2023. Quelques semaines avant, Achraf Hakimi et la plaignante, 24 ans à l'époque, font connaissance sur les réseaux sociaux, sympathisent. La jeune femme accepte de passer une soirée chez le défenseur parisien. Devant les enquêteurs, elle affirmera avoir été agressée puis violée par le footballeur. Une agression qu'a toujours nié Achraf Hakimi. Sur X, il réagit ce midi. J'attends avec calme ce procès qui permettra, selon lui, que la vérité éclate publiquement. Nous avons aussi pu joindre son avocate. Elle vient de nous indiquer son intention de faire appel de cette ordonnance de renvoi. Elle se dit estomaquée. Elle accuse la plaignante d'avoir fait obstacle à toutes les investigations et ce tout au long de l'enquête. L'avocate de cette dernière n'a pour l'heure pas encore réagi.
Information signée Manon Lombard-Brunel à Bron, près de Lyon. Très forte inquiétude autour du sort d'un lycéen âgé de 15 ans. Il a été poignardé, grièvement blessé hier après-midi, tout près de son établissement. Son agresseur est en fuite. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Jérôme.
Christophe, vous êtes en direct de Lyon. Que s'est-il passé hier ?
Alors, le drame survient peu avant 16h dans un square situé à proximité d'un lycée professionnel de Bron où la victime est scolarisée. Un groupe de jeunes venus d'une commune voisine arrive pour en découdre. Une rixe oppose l'un d'eux à un lycéen. Dans la bagarre, l'adolescent est touché à la tête et il reçoit un coup de couteau sous l'aisselle gauche. Alerté, le proviseur prévient les secours qui transportent la victime à l'hôpital Édouard Herriot où son pronostic vital reste engagé. Le maire de Bron a mis les images de vidéo surveillance à disposition des enquêteurs. Ils ont identifié l'auteur du coup de couteau qui a agi à visage découvert. Il est toujours recherché. Le lycéen blessé avait lui aussi une arme blanche, mais dans sa poche. Originaire de Villeurbanne, il n'a pas d'antécédent judiciaire. Les vidéos apporteront sans doute un éclairage sur le rôle des témoins, actifs ou passifs. Ce matin, la police a surveillé l'entrée du lycée où les élèves ont pu bénéficier d'une aide psychologique. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre.
Christophe Vincent pour ses précisions en direct de Lyon. Lyon qui a été le théâtre il y a 10 jours de l'agression mortelle du jeune militant d'extrême droite Quentin de Ranque. Certains de ses agresseurs présumés et depuis mis en examen sont issus de l'extrême gauche. Et ce drame a remis sur le devant de l'actualité la présence dans notre pays de groupes d'action violente. Voilà pourquoi le président de la République tenait ce matin une réunion sur ce sujet à l'Élysée. Julien Nenny, vous venez d'assister au compte-rendu de cette réunion. Plusieurs groupuscules vont être dissous.
Oui, 2 d'ultra-droite à Montpellier et à Albi et 1 d'ultra-gauche dont les détails n'ont pas filtré. Mais attention, les procédures de dissolution de ces 3 groupes ont été lancées avant la mort de Quentin de Ranque. La réunion de ce matin autour d'Emmanuel Macron visait donc d'abord à faire le point sur ces procédures en cours et à ne pas laisser penser politiquement qu'on ne s'en occupe pas ou qu'on privilégie un camp plutôt qu'un autre, selon un participant. Voilà pour le message politique du gouvernement. Mais cette réunion a aussi servi à prendre quelques décisions, une en particulier qui concerne la Jeune Garde. Le mouvement d'ultra-gauche au cœur de l'affaire Quentin de Ranque, qui avait été dissoute l'été dernier, va à nouveau faire l'objet d'une procédure judiciaire, en l'occurrence pour reconstitution de ligue dissoute. Les services de renseignement travaillent sur le dossier depuis des mois, dans 5 territoires en particulier, dont la métropole lyonnaise. Les événements de Lyon ont permis d'étayer définitivement notre dossier, fait savoir une source au ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, Emmanuel Macron a aussi demandé ce matin que toutes les entités proches de la Jeune Garde fassent elles aussi l'objet d'une procédure de dissolution. Le président qui se dit inquiet du climat actuel et qui veut, nous dit-on, protéger les élections municipales à venir.
Julien Nenny, une enquête ouverte à Bordeaux après des violences en marge de la manifestation organisée vendredi dernier précisément en hommage au militant Quentin de Ranque. 3 militants présents à ce rassemblement à Bordeaux, place Gambetta. 3 militants ont déposé plainte. Il n'y a pas eu d'interpellation pour l'instant. À Mulhouse, là, une enquête est ouverte pour provocation à la haine raciale. Des tracts à la gloire du régime nazi ont été distribués dans les boîtes aux lettres de plusieurs habitants avec des inscriptions ouvertement racistes et antisémites à Idi-Soupol.
Le tout accompagné de croix gammées et de symboles du Troisième Reich. Ces tracts qui semblent sortir tout droit d'une autre époque n'ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux beaucoup d'internautes qui se sont offusqués de ce racisme décomplexé. Le préfet du Haut-Rhin a lui saisi le procureur de la République sur la base de l'article 40 du Code pénal. Une enquête a donc été ouverte au parquet de Mulhouse pour apologie de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, provocation à la haine raciale et provocation à la discrimination. Le concepteur des tracts est lui identifié. Il s'agit d'un individu français classé d'extrême droite et connu des services de police. L'enquête est confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire.
Précision ici, Alsace. Dans l'Ouest, les traces laissées par les inondations ne sont pas que matérielles avec des centaines de millions d'euros de dégâts. Les crues ne sont d'ailleurs pas terminées et la décrue est très lente. Les conséquences sont aussi psychologiques, comme ici au Gond, 1850 habitants, nous sommes au sud de Saintes, département de Charente-Maritime. 80 familles ont dû évacuer ces derniers jours, alors le maire a demandé au SAMU d'installer hier après-midi en mairie une cellule psychologique. Chantal, 80 ans, et son mari surnommé Coco, lui à 81 ans, y ont rencontré hier une infirmière psychologue.
On nous a dit que ça pouvait peut-être nous apporter quelque chose. Bon, elle nous a laissé parler, on a expliqué la crue. Et puis ça nous perturbe. Hein. Ce qui a été très dur pour nous, c'est de quitter et d'aller coucher ailleurs. Ça a été très dur pour nous. On est logé un petit peu plus haut là. C'est terrible, partir avec son baluchon sous son bras, sa brosse à dents, son petit truc, et puis dire bon ben on revient pas quoi. C'est ça. Quand l'eau sera parti, ça c'est dur.
Quitter la maison, fermer la porte et dire ben l'eau rentre, moi je me tire. Il faut sortir quoi, il n'y a plus rien. Alors plus de tout à l'égout, plus de douche, plus de water, plus rien qui fonctionne.
Témoignage recueilli par ICI La Rochelle, 2 départements, donc celui-ci, Charente-Maritime plus le Maine-et-Loire, sont toujours en vigilance rouge. La Loire-Atlantique en revanche en est sortie. Météo France a fait le bilan météo de ce début d'année. Il a plu de manière continue entre le 14 janvier et le 22 février. Ça fait 40 jours de pluie consécutive. C'est tout simplement la série la plus longue mesurée dans notre pays depuis le début des mesures en 1959. Prévision complète dans une dizaine de minutes. Des responsables politiques qui caressent des vaches, c'est le cliché du salon de l'agriculture auquel on échappe cette année puisque les bovins ne sont pas porte de Versailles à Paris. Mais les ministres, eux, sont au rendez-vous, à commencer par le premier d'entre eux, Sébastien Lecornu, qui a parcouru les allées du salon ce matin. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous l'avez suivi dans cette déambulation entre tranquillité et indifférence, Marie.
Oui, Sébastien Lecornu n'a pas été bousculé ce matin devant les moutons de Vendée. Le Premier ministre venu s'afficher en pamoison après une bouchée de charcuterie de Salers.
Vous venez d'où ?
Moi de Marsanne, dans les Landes.
Ah, vous avez combien de vaches ?
Moi, 150 vaches.
On va pas. Ça va, Pascal ?
Dégustation d'un joli camembert, d'une crème d'Issigny, l'occasion d'exalter ses racines normandes.
Ah, je vois que monsieur le Premier ministre apprécie les produits laitiers.
Faut dire que c'est tout petit quand on est normand, donc.
Une déambulation tranquille, un trait millimétré aussi, beaucoup d'échanges à huis clos, quand l'exécutif redoutait que les mobilisations agricoles de janvier n'aient pas été totalement déminées. Mais Sébastien Lecornu a été interpellé sur les projets de loi encore en friche qui tardent à venir ici par les professionnels de la filière des œufs.
Nous, on ne demande pas un allègement des normes environnementales, c'est un allègement du parcours administratif des dossiers. Mais il y a un cadre législatif à faire bouger. Il faut qu'elle arrive très... Non, pas cette année. Il faut qu'elle arrive très
avant
vite.
Avant l'été, cette année, on ne peut pas plus que cette année. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine.
On va faire vite, c'est une priorité. Il faut aussi, dit-il, convaincre les parlementaires à l'Assemblée. Il n'empêche, le projet de loi d'urgence agricole a été reporté. Sébastien Lecornu avait promis de le présenter à l'ouverture du salon. En fait, il faut peaufiner. Il sera finalement examiné plus tard, en juin.
Oui, un peu de temps encore. Marie, sur un autre sujet, vous nous avez parlé hier ici même de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui est candidate à la mairie de Paris. Elle veut rester au gouvernement et ça agace Sébastien Lecornu.
Oui, il n'en fait pas étalage. Interrogé ce matin, il n'en a rien dit. Mais désormais, certains de ses proches ne cachent plus leur irritation à voir ainsi Rachida Dati s'accrocher à son poste. Il n'y a aucun scénario où elle peut rester jusqu'à l'élection, assure un ami du Premier ministre. Et qu'importe qu'elle en ait envie, elle ne fait plus le boulot en tant que ministre de la Culture, nous dit-on. Remaniement à prévoir donc demain ou jeudi, assure-t-on dans l'entourage du Premier ministre. Façon de dire que Sébastien Lecornu n'a nullement l'intention de céder. Rachida Dati a bénéficié d'un simple sursis, quelques jours, et certainement pas d'un passe-droit.
Feuilleton à suivre, Marie Mollet avec les moyens techniques de Jérémy Tuile. Le problème n'est pas nouveau, mais il s'aggrave d'après la FAGE, la première organisation étudiante, qui alerte sur les conditions de logement qui se dégradent. La FAGE publie aujourd'hui son rapport annuel. Bonjour Luc Chemlard.
Bonjour.
Selon ces chiffres, un étudiant sur trois est dans une situation de mal logement.
Ce qui signifie, d'après la Fédération, vivre dans un logement dégradé, voire insalubre. Dans le détail, 18% des étudiants ont de la moisissure chez eux. Quasiment la même proportion subit des dégâts des eaux. 13% ont eux des nuisibles et 4 étudiants sur 10 vivent dans des passoires thermiques. Charlotte le voit bien autour d'elle à Toulouse. Elle fait partie d'une association étudiante.
On a des étudiants du coup qui dorment dans des chambres à 5 degrés l'hiver parce que on ne peut pas mettre le chauffage par manque de moyens financiers notamment et c'est très mal isolé.
Sans oublier les problèmes sonores ou encore le manque de connexion internet stable qui complique l'accès aux cours en ligne et accentue les inégalités d'après la FAGE. Au total, à cause de leur logement, un quart des étudiants ne peuvent pas travailler au calme chez eux et même 17% n'ont pas un bon sommeil ou ne peuvent pas se faire à manger convenablement.
Le montant moyen d'un loyer étudiant, c'est 491 euros. Luc, c'est même 712 euros à Paris, ça prend beaucoup de place dans un budget.
Généralement, c'est au moins la moitié et parfois beaucoup plus, surtout qu'il faut ensuite ajouter toutes les charges. Selon l'enquête, près d'un quart des étudiants vivent avec moins de 100 euros par mois, une fois le loyer payé. C'est le cas de Léa, qui vit en région parisienne.
Je peux me retrouver avec 50 euros pour finir le mois, donc je finis souvent dans les rayons anti-gaspi ou alors l'épicerie solidaire de la FAGE. Mais il n'y a pas tout. J'ai arrêté de manger le matin il y a un an. La viande, ça fait longtemps que j'en mange plus trop.
La faute notamment à un loyer de 580 euros pour 15 mètres carrés. Pour s'en sortir, la moitié des étudiants déclarent travailler en parallèle de leurs études.
Luc Chemla. Un champion olympique français qui décide de changer de pays, en tout cas pour sa licence sportive. C'est Tony Yoka, médaillé d'or sur le ring, on s'en souvient, à Rio en 2016 et qui vient d'annoncer qu'il boxerait désormais pour le Congo, ce que le pouvoir de la République démocratique du Congo n'a pas manqué d'annoncer ces dernières heures en communiquant sur ses réseaux sociaux et en parlant pour le français des Jeux Olympiques de Los Angeles, donc sous les couleurs congolaises. En fait, pas du tout. Fabrice Abgral, le français ne renonce pas à sa nationalité française, il donne simplement à sa carrière une nouvelle direction.
Tout simplement, parce qu'à 33 ans, Tony Yoka a besoin d'exister et qu'il rêve encore de devenir champion du monde. Il reste français, mais il change de licence. Tony Yoka l'a dit au téléphone à Dominique Natto, le président de la Fédération française de boxe.
C'est pas un changement de nationalité sportive, il change simplement de fédération d'accueil.
Il est vrai aussi que la République démocratique du Congo, pays d'origine de son père, offre à Tony Yoka de nouvelles perspectives.
Il n'y a plus de diffuseurs en France. Hein. Malheureusement, le dernier diffuseur qui était Canal s'est retiré. Donc, on lui a proposé un plan de carrière pour pouvoir faire un championnat du monde comme il le souhaite.
Mais contrairement à ce qu'affirme sur X le ministre des Sports de la République démocratique du Congo, Tony Yoka ne participera pas aux Jeux de Los Angeles sous les couleurs de la RDC. C'est ce que dit l'avocat du boxeur français Arnaud Péricard.
Il n'est pas prévu aujourd'hui, évidemment, qu'il combatte pour le compte du Congo pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Alors après, qu'il aide, parce qu'il va créer une académie au Congo, qu'il aide de jeunes boxeurs congolais à se préparer, qu'il les encadre, qu'il les entoure, c'est aussi une possibilité. Mais il n'est pas prévu en tant que combattant qu'il participe à ces Jeux Olympiques.
Tony Yoka devait combattre en avril prochain à Paris, mais à ce stade, personne ne sait si ce projet sera maintenu ou transféré au Congo.
Précision Fabrice Abgral. Je voudrais maintenant vous faire écouter un son que vous connaissez, mais qui restait jusqu'ici aux oreilles des scientifiques un mystère. Le hennissement du cheval, je vous demande d'être particulièrement attentif. Le cheval siffle et crie en même temps. Et ça, normalement, c'est impossible, d'où une étude parue hier dans la très sérieuse revue Current Biology. Des chercheurs suisses, autrichiens, danois et français ont cherché à comprendre comment ce son était produit. Bonjour Paul Tillier.
Bonjour Jérôme.
Et la réponse est là. Biphonation, expliquez-nous.
Oui, les chercheurs ont tenté de comprendre comment un animal aussi gros pouvait produire un son aussi aigu. Et la réponse est donc cette fameuse biphonation. Après une analyse du larynx de la bête, ils se sont aperçus que lorsque le cheval hennit, il crie et siffle en même temps. La preuve avec David Ruby, professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, spécialiste de la voix chez l'animal. Il a participé à cette étude.
Je peux vous le faire, par exemple, là, quand je parle, vous avez vibration de mes cordes vocales. Je peux siffler en même temps, ça fait...
Une biphonation quasiment unique chez les mammifères terrestres. Les ânes ou les zèbres, cousins des chevaux, ne sifflent pas. Seul le wapiti, un cerf de très grande taille qui vit en Sibérie et en Amérique du Nord, utilise un mécanisme similaire.
C'est quand même quelque chose qui est assez rare. Et l'hypothèse, moi, que je mets en avant pour expliquer pourquoi ce sifflement a évolué, ça permet à l'animal, en fait, parce que le sifflement est très puissant, donc s'entend sur de longues distances, ça permet à l'animal de signaler sa présence donc sur des distances assez lointaines. Il y a un parallèle qui est assez intéressant. Dans les langues sifflées chez l'humain, le sifflement prend aussi le dessus sur la parole lorsqu'on doit communiquer sur des très grandes distances.
Une découverte, Jérôme, qui ouvre des perspectives. Certains chants, comme les chants de gorge, qui utilisent une forme de biphonation, ont peut-être été inspirés par les cris de ces animaux.
Merci Paul Tillier. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo de Stéphanie Fromentin. Et puis à partir de 13h30, une jeune médecin avec nous. Elle a passé un an à faire des remplacements partout en France, notamment dans les déserts médicaux. Elle raconte son expérience dans un livre. J'aimerais beaucoup confronter son expérience avec la vôtre, que vous soyez patient ou médecin par exemple. Appelez-nous 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton à la découverte cette semaine du travail de la police scientifique. Un gros morceau. Aujourd'hui, on parle de l'ADN. Et puis à 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Julien Baldacchino, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien de Saint-Plet en Mayenne à Clairejoux en Corrèze, en passant par Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Je vous parle de naissance et des noms inscrits sur les cartes d'identité.
Et avec vous Julien, une autrice, compositrice, interprète.
Marie-Amélie Seigné, qui vient de sortir un album concept nommé Unisex et qui parle d'Étienne Dao et de sa chanson Ouverture.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce mardi, je vous raconte la trajectoire tortueuse de Charles Pasqua, deux fois ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, la première cohabitation, 1986-1988.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h sur France Inter.
Ce mardi, jackpot Euromillion de près de 140 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Quand on est entrepreneur, il y a ce moment où son activité prend de l'ampleur. avec davantage de clients, sur des affaires plus importantes. Et là, son activité change d'échelle, sur des dossiers encore plus grands, sur des projets encore plus...
Quand vous voyez plus grand pour vos affaires, BNP Paribas met toute son expertise à votre service. Nous finançons vos projets, même les plus ambitieux, grâce à des solutions adaptées. Demandez conseil à l'un de nos 2000 chargés d'affaires. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Sous réserve d'études et d'acceptation par BNP Paribas. Voir détails et conditions sur mabanquepro.bnpparibas.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme Cadet.
Une journée lumineuse.
Une fois que des brouillards seront dissipés, que les nuages bas seront disloqués, le soleil prendra l'avantage sur les deux tiers sud du pays. La journée est toujours un tout petit peu plus contrastée au nord, où les nuages résistent encore jusqu'à la mi-journée, de la Normandie et des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est et la Bourgogne. Mais ils finissent par se morceler au cours de l'après-midi pour faire place à de belles éclaircies. Ces nuages disparaissent à la faveur d'un vent de sud sensible qui souffle sur le littoral breton et du Cotentin par rafale de 50-60 km par heure. Le vent d'automne se lève aussi tranquillement au cours d'après-midi avant de se renforcer jusqu'à 60 km par heure en rafale cette nuit. Il touchera donc le Tarn et le Midi toulousain.
Et encore de la douceur, de plus en plus d'ailleurs.
C'est ça, exactement. Hein, une douceur amorcée hier par des valeurs supérieures à 7-8 degrés au-dessus des normales de saison, qui pourraient aujourd'hui dépasser les normales de 12 degrés. Il fera 14 à 18 sur la moitié nord, 17 à 22 au sud, jusqu'à 23-25 du sud de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon. Il fera 15 degrés à Saint-Plais en Mayenne, 16 à Paris-le-Bourget, mais 17 à Paris-Montsouris, comme à Brest ou Ajaccio, 20 à Aurillac et Montpellier.
Jusqu'à 25 degrés en ce 24 février.
Exactement.
Merci Stéphanie Fromentin.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Anaïs Vereschak.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes médecin généraliste en Auvergne, essentiellement dans l'Allier, mais aussi dans le Puy-de-Dôme et en Haute-Loire. En fait, il vous manque que le Cantal en Auvergne, c'est ça, vous y assurez des remplacements. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour ce livre que vous publiez avec votre compagnon Brice Philippon, qui lui est kinésithérapeute. Le livre s'intitule « Urgent recherche médecin » avec ce sous-titre « Une année d'immersion au cœur des déserts médicaux ». C'est publié aux éditions Marabout. 01 45 24 7000 pour tous ceux qui veulent discuter, dialoguer avec nous. Vous passez aussi via l'application Radio France, c'est l'onglet Réagir. Anaïs Vereschak, comme les compagnons ont leur tour de France pour parfaire leur geste d'artisan, vous avez voulu faire votre tour de France du médecin. Vous avez donc sillonné le pays pendant un an, en 2024, remplaçant des médecins dans la Drôme, dans les Vosges, dans les Landes, et j'en passe. Il y a 12 chapitres, comme les 12 mois de l'année dans votre livre. Votre compagnon, lui, dans le même temps, faisait des remplacements de kiné. Vous êtes déplacé en van. Vous en avez profité pour faire un petit peu de tourisme, tout ça accompagné par votre chien. Voilà le cadre de cette année posée. Ce que je retiens d'abord, c'est qu'à l'issue de cette année, vous êtes toujours médecin, vous l'êtes toujours dans un département rural, c'est l'Allier, mais c'est vrai aussi pour la Haute-Loire, donc votre vocation, elle est toujours là.
Alors, moi, j'ai toujours voulu être médecin depuis que je suis petite. Donc, c'est vrai que cette expérience, elle a fait que conforter mon envie, en tout cas, de soigner les autres. C'est vrai que les déserts médicaux, on s'en fait toute une idée. On s'imagine toujours le pire. On a eu envie, avec mon compagnon, justement, de voir quelle était la réalité du terrain. Qu'est-ce qui se passe, finalement, dans ces zones-là? Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi différents degrés de désertification médicale en France.
Vous avez grandi en ville?
Pas du tout. Moi, je suis originaire effectivement d'Auvergne. J'ai une grande partie de ma famille qui est dans le Limousin. Donc, on a toujours été confrontés à la désertification médicale, aux difficultés d'accès aux soins. Je le vois avec ma famille depuis toute petite, mes grands-parents qui devaient parcourir plus d'une heure et demie de route pour aller au premier hôpital de proximité. C'est vrai que c'est une problématique à laquelle je suis sensible depuis mon enfance.
Donc, vous saviez, en discutant avec votre famille ou des amis, qu'il fallait beaucoup de temps pour aller chez le médecin, que certains médecins refusent des rendez-vous. Mais vous avez quand même découvert des choses et l'ampleur du problème?
Effectivement, je pense que pour se rendre compte vraiment de la situation, il faut y être confronté, il faut aller sur le terrain, voir ce qui se passe. La difficulté d'accès aux soins, elle se représente de différentes manières. Ça peut être effectivement des délais d'attente très longs, ça peut être des difficultés de trouver un spécialiste, ça peut être les premières urgences qui sont à des dizaines et des dizaines de kilomètres. Au final, on se rend compte que c'est difficile pour les patients, mais aussi pour les soignants qui malheureusement manquent de moyens, manquent de temps pour pouvoir prendre en charge les patients correctement.
Qu'est-ce que vous avez découvert d'essentiel durant cette année, que vous ignoriez auparavant?
Je me suis rendu compte que la désertification médicale, elle s'exprime de différentes manières et surtout que certains territoires sont beaucoup plus touchés que d'autres. Aujourd'hui, 87% du territoire est concerné par un manque de soignants, mais il y a certaines zones où vraiment la précarité est très importante. Des patients qui n'ont plus du tout de suivi, des femmes enceintes qui ont peur parce qu'elles n'ont pas de médecin pour leur enfant à naître, des personnes âgées qui sont à domicile et que plus personne ne va visiter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'accès aux soins qu'on nous vantait, tout le monde a le droit à l'accès aux soins partout de manière gratuite, mais en fait, c'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a un véritable creux, une vraie fissure en fait, dans l'accès aux soins de manière générale.
Vous racontez que vous prenez, je crois que c'est une patiente au téléphone, et au fil de la discussion, elle vous dit que ça fait 10 ans qu'elle n'a pas vu de médecin.
Je reçois effectivement une patiente qui n'avait pas vu de médecin depuis une dizaine d'années. Alors forcément, il y a déjà de l'appréhension de base à qui s'est ajoutée aussi la difficulté d'accès aux soins. Son mari a profité effectivement d'avoir trouvé un rendez-vous que je proposais pour suivre des patients non suivis au cabinet. Donc forcément, elle vient consulter et malheureusement, c'est trop tard dans le sens où je diagnostique un cancer en stade avancé.
Il y a une très forte suspicion en tout cas et vous essayez de l'orienter vers un parcours de soins. Beaucoup d'appels, 01 45 24 7000. Nous sommes avec Jocelyne. Bonjour Jocelyne.
Oui, bonjour France Inter.
Merci d'être là Jocelyne. Merci. Vous nous appelez de Corrèze, d'où en Corrèze?
Alors, en Corrèze, moi j'habite Uzerche et mon médecin traitant ainsi que ma fille est à Lubersac, à 18 km d'Uzerche.
Votre médecin est toujours là, il est bien présent, c'est facile d'avoir des rendez-vous?
Non, c'est pas facile d'avoir des rendez-vous puisque il faut plus d'un mois pour avoir un rendez-vous. Sauf bien sûr si c'est urgent, hein, mais il faut s'y prendre un mois à l'avance pour avoir un rendez-vous pour des renouvellements d'ordonnance, hein, quand on a des maladies très dures, hein, voilà. Donc en fait là, ils voudraient partir en retraite. En plus, dans ce cabinet médical, ils sont 4 médecins dont sa femme. Alors voilà, ils vont partir à 2. Et donc, ils ne trouvent pas de remplaçant. Voilà. Alors, on va être confrontés. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on va trouver un médecin disponible, parce que ce n'est pas les 2 restants sur 4 qui peuvent prendre toute la clientèle de notre médecin traitant. Mmh. C'est impossible, parce que c'est un médecin qui est vraiment débordé, qui a beaucoup de patients. En plus, il fait des urgences avec les pompiers de Lubersac. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très pris. Hein.
Merci, donc, Jocelyne. Merci, Jocelyne. On a d'autres appels. Et puis, je voudrais faire réagir Anaïs Verechak à votre témoignage. Il y a plusieurs choses dans ce que nous dit Jocelyne. D'abord, le remplacement. Est-ce que des jeunes médecins comme vous hésitent à prendre des cabinets dans des communes rurales? Jocelyne a parlé d'Uzerche. Lubersac, on n'est pas dans des très grandes villes.
Un des gros freins à l'installation des jeunes médecins, c'est justement la difficulté d'être remplacé. Je pense notamment pendant les congés ou quand une maladie survient. Finalement, ne pas avoir de confrère ou de consoeur qui peut prendre la suite et assurer la continuité des soins, c'est une source d'inquiétude. Comme le dit Jocelyne, ces médecins hésitent à partir en retraite parce qu'en fait, il n'y a personne derrière. Et comment on fait pour laisser des patients sans suivi, sans médecin derrière pour assurer la continuité? C'est extrêmement compliqué.
Vous avez été confronté à des patients qui arrivent avec des ordonnances qui datent d'il y a un an. Parce que le médecin est parti à la retraite et il a fait des ordonnances à tous ses patients en fait pour plusieurs mois.
Aujourd'hui, les patients sont démunis, mais les médecins aussi. En fait, on n'arrive plus à canaliser et à prendre tous les patients, toutes les demandes en charge, parce que les journées, malheureusement, ont des durées limitées. On a trop de patients, trop de demandes. Alors, on rajoute des urgences entre deux. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre. C'est que c'est vraiment compliqué pour nous aussi sur le terrain de pouvoir répondre à toutes les demandes. Comme les délais s'allongent, les consultations, elles aussi, deviennent multiples. Motifs. Les gens ont beaucoup de demandes, et ce qui est normal à juste titre, mais du coup c'est compliqué pour nous en un temps imparti de répondre à toutes les demandes, et du coup vraiment c'est le cercle vicieux.
Cercle vicieux, Jocelyne nous dit, bon, mon médecin est débordé. Vous expérimentez, Anaïs Verechak, une crise d'angoisse à l'issue d'une journée. Vous pouvez nous raconter ce qui se passe?
C'est vrai qu'on se rend difficilement compte, mais une journée de médecin, c'est être 100% investi avec ses patients du matin où on arrive au soir où on part. Quand la porte se ferme derrière le cabinet, il y a encore beaucoup d'administratifs, beaucoup d'appels à gérer. Il faut regarder les biologies, il faut rappeler les patients, il faut gérer les urgences entre deux, les appels de l'EHPAD. En fait, il y a énormément, énormément de choses que les patients ne voient pas. Et parfois, effectivement, ça retentit sur notre morale, ça retentit sur notre santé mentale également. un médecin sur deux aujourd'hui est en épuisement, est en burn-out. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire, on reste des êtres humains et parfois effectivement le vase déborde et on craque.
Donc c'est la crise de larmes le soir en rentrant chez soi. Ça vous est arrivé souvent dans cette année ?
Ça m'est arrivé pendant l'internat plusieurs reprises parce qu'on demande beaucoup aussi aux étudiants en médecine et pendant le Tour de France évidemment parce qu'il y avait parfois des remplacements qui étaient très compliqués justement quand on est pas assez nombreux et qu'on a trop de demandes à gérer, qu'on veut bien faire les choses, qu'on veut essayer d'être présent pour nos patients, bah parfois effectivement on s'oublie un petit peu.
Ce qui est très appréciable dans votre témoignage, c'est votre franc-parler, votre sincérité. Des patients qui sont mal aimables, des patients qui ne disent pas bonjour, vous le dites et vous en décrivez plusieurs. Des patients qui partent sans payer. Ça arrive régulièrement et vous en parlez également.
Alors, il faut de tout pour faire un monde. Et effectivement, même si la grande majorité des patients qu'on a rencontrés durant le Tour de France étaient absolument adorables et ça a été un plaisir de pouvoir les suivre et de les aider, il y a malheureusement aussi des patients qui sont moins bien élevés, on va dire, pour être politiquement correct. Des patients qui n'honorent pas leur rendez-vous et qui ne préviennent pas. Des patients qui sont parfois à la limite de l'agressivité, qui sont parfois même agressifs, notamment avec les secrétaires médicales. Il y a une histoire très forte que je raconte dans le livre où effectivement, il y a une secrétaire qui est face à un patient qui vraiment est très, très violent.
Donnez-moi l'ordonnance ou je vous frappe, grosso modo, c'est ça ?
C'est très clairement ça, malheureusement, on en arrive là. J'entends qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très anxiogène, mais rien ne justifie le manque de respect et l'agressivité envers les soignants.
Et les patients sont vraiment plus désagréables en ville qu'à la campagne ? Alors, vous suggérez ?
C'est-à-dire qu'en ville, le soin, je trouve, est moins respecté parce que finalement, les gens ont moins conscience à quel point c'est précieux d'avoir accès à un soignant. Dans les campagnes, les gens sont tellement contents, tellement reconnaissant d'avoir accès à un soignant que le respect est présent, la reconnaissance, les remerciements, en fait, c'est tout bête. Alors qu'en ville, des fois, vraiment, j'ai eu des patients, moi j'aime bien toujours échanger un petit peu quelques mots avec mes patients, je trouve que c'est le contexte humain qui est sympathique dans le métier. Et c'est vrai qu'on on se rend compte qu'ils sont là pour leur ordonnance et puis voilà, ils savent ce qu'ils veulent, ils arrivent et ils disent, bon bah, moi je veux une échographie, attendez, je ne vous ai pas examiné, on va peut-être d'abord regarder ce qu'il en est et je vous dirai si effectivement une échographie est nécessaire ou pas.
Il y a ce constat-là, et puis il y a aussi des solutions, des pistes, et il y a une constante qui revient, c'est moins on est seul dans son activité de médecin, moins c'est dur. Ça peut être le travail en maison de santé, ça peut être le travail aussi avec un assistant médical.
Je remplace actuellement dans un cabinet régulièrement dans l'Allier où justement il y a deux assistantes médicales et c'est vraiment un soulagement de pouvoir justement répartir les tâches. C'est vrai que quand j'ai beaucoup d'urgences qui arrivent d'un coup, je peux voir une urgence et en même temps le patient suivant est déjà installé, l'assistante médicale prend l'attention, l'aide à se déshabiller, peut noter dans le carnet pour les enfants si les derniers vaccins sont bien à jour, etc. Et ça permet vraiment on va dire de soulager la charge mentale tout en gardant une prise en charge vraiment de qualité.
Il y a beaucoup de médecins qui ont des assistants comme ça aujourd'hui ?
Encore très très peu, c'est moins de 5% il me semble de mémoire alors que...
Pourquoi ?
C'est encore trop peu développé malheureusement.
Parce qu'il n'y a pas de personnel formé pour ça ? Parce que ça coûte trop cher de salarier quelqu'un à l'année ?
Je pense que c'est juste parce que c'est encore trop méconnu. Ça commence à se diversifier. Je sais que j'ai reçu beaucoup de messages sur mes réseaux sociaux parce que justement il y a des infirmières qui aimeraient se former pour devenir assistante médicale mais on en entend peu parler. Moi pendant mes études j'avais jamais entendu parler des assistantes médicales. Je l'ai découvert pendant le Tour de France en l'expérimentant dans des cabinets, justement.
Toujours dans les solutions que vous proposez, et puisque vous faites des remplacements, Anaïs Vereschak, vous dites qu'il faudrait mieux connecter les soignants qui sont installés et les remplaçants. Comment ça se passe aujourd'hui quand on est médecin et qu'on cherche des remplacements ?
Dites-vous que sur les 12 remplacements qu'on a effectués partout en France, on en a trouvé 11 sur Facebook. Sur un réseau social.
Mais il n'y a pas de plateforme, en fait, où les médecins disent « J'habite, en Champagne, je pars de telle date à telle date. Est-ce qu'il y a un médecin dans la région qui serait intéressant ?»
Absolument pas. Aujourd'hui, il n'existe aucune plateforme mise en place, ni par le ministère de la Santé, ni par la Sécurité sociale, pour mettre en relation les soignants installés, les soignants remplaçants. Et ça, je trouve ça extrêmement regrettable dans un monde où on peut tout faire. Il y a des applications pour tout, pour commander sa pizza depuis son canapé, pour payer son parc-mètre. Enfin bref, il y a tout plein de choses. Mais ça, par contre, pour soigner, alors que justement, on est dans un contexte où l'accès aux soins est difficile, ça n'existe toujours pas.
Donc ça, c'est vraiment la débrouille, en fait. C'est comme ça que ça marche.
C'est la débrouille, c'est le bouche à oreille, c'est très compliqué.
Pour trouver des remplacements. Vous dites aussi qu'il faudrait mieux relier et accélérer le travail, la collaboration entre médecins eux-mêmes, entre médecins libéraux. Il n'y a pas de cercle, de moment d'échange aussi aujourd'hui, en tout cas il n'y en a pas assez.
C'est très difficile, effectivement. Je pense que les jeunes médecins, quand ils viennent de terminer leurs études, souvent se rapprochent des des professionnels qui les ont formés, donc des maîtres de stage souvent. Mais nous, on a bien vu pendant le Tour de France que le système de collaboration, où on va avoir un jeune médecin qui va venir en supplément dans un cabinet, donc les deux médecins peuvent travailler ensemble, mais ça permet par exemple à un médecin d'aller faire les visites par exemple à l'EHPAD pendant que l'autre est au cabinet. Ça permet justement en plus de tester un cabinet. C'est une étape après le remplacement, c'est un peu plus engageant puisqu'on reste sur un seul et même cabinet, mais c'est hyper intéressant justement pour avoir quelqu'un à côté, pour pouvoir être encadré, parce que c'est vrai que quand on vient de finir l'internat, on a encore besoin d'acquérir de l'expérience et parfois on a un peu peur aussi de se retrouver seul face à des patients.
Alors vous proposez ces solutions, vous publiez ce livre, vous avez été reçu je crois à l'Assemblée nationale, mais il y a quand même chez vous une forme de désenchantement. Vous pensiez que peut-être ça serait plus simple de porter vos idées.
Naïvement, je pensais qu'en allant voir les députés à l'Assemblée nationale et en expliquant nos propositions, les choses allaient bouger. Malheureusement, on est obligé de constater que plus d'un an après, rien n'a changé. On nous a reçus, on nous a écoutés, on nous a dit qu'on avait d'excellentes idées, que c'était très bien, qu'il fallait mettre les choses en place. Je les ai relancées une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis vous voyez, au bout d'un moment, rien ne se passe. Donc on a aussi décidé d'écrire ce livre pour essayer de faire bouger les choses à notre échelle. On se dit que peut-être si on a le soutien des patients, de monsieur et madame tout le monde, parce que ce livre est vraiment à destination de monsieur et madame tout le monde, autant pour les soignants que pour les patients, on arrivera peut-être à faire bouger les choses, mais peut-être que je suis encore une fois un peu naïve.
On a le témoignage d'Aurélie qui nous dit qu'il y a des déserts médicaux également à Nantes, donc même en ville, hein, trouver un généraliste c'est difficile. Amélie qui nous écrit du nord de la Seine-et-Marne, qui nous explique que son médecin traitant a pris sa retraite il y a une dizaine d'années, depuis impossible, dit-elle, d'avoir un médecin traitant. Il y a une proposition de loi, Anaïs Verestchak, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. La plupart des groupes ont voté d'ailleurs ce texte pour réguler l'installation des médecins. Vous n'êtes pas favorable à ce texte. Pour quelle raison ça? C'est une initiative des députés.
Encore une fois, les politiciens proposent des solutions qui sont complètement déconnectées de la réalité. Une régulation, c'est intéressant quand on est dans un contexte de surdensité médicale. Or, actuellement, comme je le disais tout à l'heure, 87% du territoire est concerné par un manque de soignants. Donc déshabiller Pierre pour habiller Paul, honnêtement, ça ne sert à rien. En fait, on va juste déplacer le problème.
Il n'y a pas d'endroit sur le territoire où il y a trop de médecins?
Honnêtement, ça reste une zone très très minoritaire. Et encore, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un seul médecin en France qui soit en train de se tourner les pouces dans son cabinet et qui se dise « bon, ben moi, j'attends les patients, je ne sais pas où ils sont ». Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, pour certains, c'est plus compliqué que pour d'autres. Mais encore une fois, comme je l'explique, pendant le remplacement dans l'Aveyron, où j'étais la seule médecin sur 652 km², si on oblige un médecin à aller tout seul là-bas, sans un contexte médical, sans d'autres médecins, sans d'autres professionnels de santé, ce médecin ne tiendra jamais. Enfin, il faut se rendre compte de l'évidence. Sur le terrain, c'est très très compliqué. Il faut vraiment quelque chose, des conditions on va dire, de travail décentes pour qu'un médecin puisse s'installer et rester surtout.
Vous allez continuer à faire des remplacements? C'est ce que vous souhaitez pour l'instant?
Pour l'instant, je continue les remplacements en attendant de trouver la maison de santé où je m'installerai. Mais effectivement, en tout cas, ce sera certainement dans l'Allier et dans une maison de santé avec une assistante médicale, par contre, parce que
voilà,
je valide.
Le modèle est établi, reste à trouver le lieu. Merci Anaïs Verestchak d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir échangé avec les auditeurs de France Inter. Urgent recherche médecin, c'est aux éditions Marabout, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie à la découverte du travail de la police scientifique. Dans son labo parisien, c'est sa patronne Christelle Sircoupé qui nous sert de guide toute cette semaine. Et pour ce deuxième épisode, Sarah Guibaudot l'accompagne dans la section biologie. On va parler de l'ADN, mais d'abord il faut s'équiper de pieds en cap.
Il faut évidemment s'équiper, donc blouse, charlotte, gants, masque.
L'objectif de tout ça, c'est d'éviter de
polluer les cellules, de les contaminer par notre propre ADN.
Et par précaution, vous allez me faire aussi un prélèvement d'ADN?
Oui, on a une base de données qui est réglementée. Dans 18 mois, si vous n'êtes pas revenu au laboratoire, votre ADN sortira de la base. J'ai fait un doctorat en industrie pharmaceutique. Je travaillais sur les maladies neurodégénératives. Et puis, ma belle-sœur qui travaillait dans la police nationale m'a envoyé une fiche de poste donc pour être ingénieure en police technique et scientifique. Voilà, c'était le tout début de l'ADN. J'ai connu une explosion. Et quand je suis arrivée en 2003, on était 13 en biologie. Et aujourd'hui, il y a 60 personnes en biologie. Donc, on voit le décalage. On travaillait de façon artisanale à l'époque, en manuel. Et puis, on est passé dans les années 2005-2008 à l'automatisation pour faire face justement à cet afflux de dossiers et de cellules.
Où est-ce qu'on extrait l'ADN?
Dans on extrait l'ADN, spécifique. Voilà.
Je vous suis.
Hop. Allez-y, ferme la porte.
Merci.
Vincent est un ingénieur qui est lauréat du concours ingénieur 2025.
Donc lors du prélèvement, on utilise donc des écouvillons humidifiés à l'aide de sérum physiologique. Et à l'aide de cet écouvillon, en fait, on va venir frotter la zone d'intérêt pour pouvoir récupérer un maximum de cellules présentes mais qu'on ne voit pas. On estime aujourd'hui que l'on peut obtenir un profil ADN à partir d'environ une vingtaine de cellules. Donc on est parti dans l'infiniment petit. On extrait l'ADN dans une salle qui est vraiment spécifique et qui est éloignée des zones de prélèvement. Ce robot, qui est totalement automatisé, va permettre donc d'extraire et de purifier l'ADN que l'on aura prélevé à partir des écouvillons dont je vous ai parlé au préalable.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut toujours remettre cet élément d'enquête, cette preuve matérielle, dans le contexte. Un mégot sur une scène de crime peut être mis de façon volontaire pour faire accuser une personne. Et puis, il y a également des transferts d'ADN. Donc, effectivement, les avocats prennent souvent l'exemple aux assises. Une simple poignée de main permet de déposer mon ADN, si je vous ai serré la main, sur un autre objet. C'est pas si facile que ça, parce qu'il n'y a pas de règles qui régissent le dépôt d'ADN. S'il fait chaud, si je transpire, si je suis stressée. Et on voit dans la littérature qu'il y a des bons donneurs et des mauvais donneurs. Il y a des gens qui desquament beaucoup et d'autres qui desquament moins. Donc nous, on n'est pas là pour interpréter quand on va au tribunal et qu'on nous pose la question, Madame l'expert, sur la queue de détente de l'arme, on retrouve l'ADN du prévenu, est-ce que c'est lui qui a tiré ? Nous, on ne peut pas répondre à cette question. Comment l'ADN est arrivé là ? C'est à l'enquête de le déterminer.
Pour l'anecdote, il y a eu un grand mystère en Allemagne et dans toute l'Europe avec un ADN inconnu qu'on avait retrouvé sur de nombreuses scènes de crime.
C'était le fantôme un peu, on se disait mais qui est cette personne qui est dans plusieurs affaires. Il s'agissait finalement d'une personne, d'une dame qui était sur la chaîne de production des écouvillons, les fameux cotons-tiges qui nous servent à faire les prélèvements sur les pièces à conviction.
Affaire résolue en 2009 donc.
Voilà, le mystère est résolu. Maintenant tout est traité de façon à éviter que ça se reproduise.
Feuilleton signé Sarah Guibauto, réalisation Vincent Godard, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h50, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ses petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui Cyril, petites histoires de naissance et d'état civil.
Et je vous emmène Jérôme à Saint-Plé en Mayenne le 13 janvier, un événement très très rare a eu lieu dans ce village de 300 habitants. Pour la première fois depuis 1966, un enfant a vu le jour sur le territoire même de la commune Rhône-Alpes-Ouest-France. Pas le temps d'aller à la maternité de Château-Gontier à 15 km, la petite Flavie est née à domicile à 5h30 du matin. Même joyeux événement le 17 janvier à Clairjoux en Corrèze, Luna a pointé le bout de son nez sur la terre communale. Ce n'était pas arrivé depuis 1998. Alors, la mère du village a témoigné dans la montagne. « J'ai été très ému de pouvoir signer un acte de naissance sur notre commune. Ainsi, sur leur pièce d'identité, ces deux petites filles auront un lieu de naissance original, celui de leur vrai village et non de la ville voisine. »
Oui, car c'est de plus en plus rare.
Oui, Jérôme, aujourd'hui, 99% des enfants naissent dans environ 450 communes en France, celles où l'on trouve des maternités. Or, le nombre de ces établissements a diminué de 40% depuis l'an 2000. En parallèle, et pour des raisons de sécurité sanitaire, l'accouchement a été médicalisé et n'a presque plus lieu à la maison. Résultat, les lieux de naissance sont uniformisés sur les papiers d'identité, les registres d'état civil des petites communes s'assèchent côté naissance, mais pas côté décès, le sentiment d'appartenance au lieu où on a grandi peut se diluer et le travail des généalogistes se complique.
Donc on est quasiment tous au même endroit aujourd'hui, exactement. Ça c'est le constat. Et cette situation, certains élus veulent essayer de s'en affranchir.
En 2019, le sénateur UDI Hervé Marseille a déposé une proposition de loi pour autoriser les parents à domicilier la naissance de leur enfant dans le lieu où ils résident et non
et
là,
là où l'enfant
en
est né.
En effet, ouais. Et pas où s'est déroulé l'accouchement. Une D'accord. façon, m'a-t-il dit, de continuer à faire vivre tous les territoires et de créer un vrai lien de rattachement à chacun. Et il illustre aussi, aujourd'hui Jean Racine ne serait pas né à La Ferté-Milon, Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts ou Condorcet à Ribemont. toutes ces personnalités seraient déclarées nées à Soissons ou à Saint-Quentin, où se trouvent les cliniques d'accouchement de l'Aisne. Alors, ce texte a été adopté au Sénat dès 2020, mais il n'a toujours pas été discuté à l'Assemblée. Mais Hervé Marseille ne compte pas abandonner le projet.
Même s'il est en pause depuis 6 ans maintenant, bon, ça n'a pas empêché une commune de changer ses règles.
Depuis avril 2025, les administrés d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, peuvent décider de choisir leur ville comme lieu de naissance de leur enfant, même si celui-ci a vu le jour à l'hôpital le plus proche, situé à Villepinte. Cela fait suite à un accord entre les deux communes et l'établissement hospitalier. C'est bien plus qu'une formalité, justifie-t-on. C'est un symbole d'appartenance, d'identité et de fierté locale. En 10 mois, plusieurs centaines d'enfants ont déjà été enregistrés comme nés à Aulnay, sans y être finalement techniquement
nés. Oui, puisqu'ils sont nés en fait à Villepinte.
Exactement.
D'autres prennent les devants, Cyril.
Oui, la semaine dernière, à Fresnay-sur-Sarthe, une future maman a appelé en mairie pour faire un passeport à son bébé avant même sa naissance, nous apprend Ouest France.
Ça, c'est original.
La maire de la commune a témoigné. Je lui ai rappelé qu'il fallait déjà un acte de naissance et une photo d'identité. On ne prend pas encore les échographies. Il faut dire, Jérôme, que la course au papier d'identité s'est souvent transformée en marathon, mais le ministère de l'Intérieur m'a indiqué que les délais sont stabilisés et qu'entre la prise de rendez-vous et l'obtention des papiers d'identité, il s'écoule désormais en moyenne 25 jours.
Oui, de là à appeler avant même la naissance, il y a quand même une petite marge. Merci Cyril Petit, et puis bravo au charcutier français Olivier Caillon. Nous en avons parlé hier ici même, c'est lui qui a remporté hier soir le championnat du monde de chou farci. De C'est la France à C'est une chanson, Julien Baldacchino à votre micro aujourd'hui, non pas un charcutier, mais une DJ et productrice de musique.
Marie-Amélie Seigné, membre d'une célèbre famille d'artistes qui vient de sortir un projet nommé Unisex, dans lequel elle a invité des hommes à chanter des chansons créées par des femmes et vice-versa. La chanson qui l'inspire de façon presque ésotérique, elle est signée Étienne Dao, et elle s'appelle Ouverture.
C'est une chanson qui est pour moi très spirituelle et quelque chose qui émane même de Dieu grec. Enfin, ça, je suis un peu, j'ai découvert cette chanson il y a longtemps, mais j'ai eu une écoute très approfondie dans une île grecque.
Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que ça ait cette résonance-là ?
Bah, justement, j'ai traversé cette foule, j'ai cru avoir cette rencontre l'a été pendant un petit moment de ma vie. Enfin, pour moi, c'est une chanson très forte.
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible.
En fait, c'est une chanson qui m'accompagne, même aujourd'hui, dans plusieurs moments de ma vie où il y a différentes lectures, parce que c'est ça le pouvoir de la musique et des chansons. Quand on aime les mots et quand on aime la musique, c'est une chanson qui parle de rencontres, d'amour, de hasard, de destin.
Cette idée de hasard et de destin, si on le prend sous l'angle, et c'est un peu ce que vous disiez, de la mythologie grecque, de la tragédie grecque, parfois ça va pas dans le sens du bonheur, ça va dans le sens de la tragédie.
Mais est-ce qu'il ne faut pas de tragédie pour atteindre le bonheur ? Et qu'est-ce que le bonheur ? Alors là, on peut partir sur quelque chose de très philosophique. Je crois que le bonheur, c'est juste atteindre... Il parle d'ailleurs, pas de sérénité, mais il y a un mot dans le texte. Oui, c'est complexe. Enfin, moi, je pense qu'il faut des tragédies pour se rendre compte qu'à des moments, on recherche en tout cas la plénitude et la sérénité, et donc le bonheur.
La pudeur du cœur impose le respect, la confiance sereine.
Je dirais pas qu'elle me bouleverse, je dirais qu'elle me touche profondément. C'est un voyage introspectif. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et aujourd'hui, elle me parle encore différemment sur la recherche de la plénitude, plus du bonheur.
Et vous avez une idée de comment l'atteindre, la plénitude, le bonheur ?
Non, j'ai pas d'idée.
Est-ce qu'on trouve un jour ?
Je sais pas. Peut-être dans quelques temps, je pourrais vous dire. Je sais pas. En tout cas, je tends à la trouver.
Et cette chanson, Ouverture, ouvre donc, comme son nom l'indique, l'album Corps et Armes d'Étienne Dao, sorti en 2000.
Un album et un artiste qui touche particulièrement Marie-Amélie Seigné.
c'est les BO de la vie, quoi. Et cette chanson, elle, esthétiquement, d'ailleurs, il faut quand même le dire, esthétiquement, c'est une chanson qui, pour moi, s'approche pas mal de l'extase. Enfin, c'est les années 2000, donc c'est toutes les années de moi, ce que j'ai aimé, je sais pas si ça va vous parler, mais des cordes de Greg Armstrong. La BO de Roméo et Juliette, qui fait des cornes comme ça, très tendues, très cinématographiques. Et puis les mots d'Étienne Dao. Dao, il y a quand même des chansons qui sont vraiment des parties de BO de ma vie. C'est quand même quelqu'un... Il arrive à faire de la pop, ce qui est très compliqué, puisqu'on sait que les textes français sont compliqués dans la pop, avec énormément de textes littéraires et poétiques.
Et il y a sa voix.
Sa voix, d'abord, elle a un son. Je sais pas, les textes, la voix, la douceur dans sa voix... C'est un grand, quoi.
Qu'est-ce qui vous touche chez des artistes, chez des chanteurs et chanteuses? Est-ce qu'il y a un déclic, quelque chose qui, dans une voix, qui, dans une façon d'interpréter, vous fait dire « j'ai envie de travailler avec cette personne »
Bah, la différence, des voix très singulières, puis des voix qui vous parlent, en fait. Moi, il y a des chanteurs qui chantent extrêmement bien, mais qui ne me touchent absolument pas. Et moi, ce que j'aime, c'est ce que j'ai fait, réadapter les chansons, réadapter les histoires, en fait.
Les pièges nombreux avant que l'on se trouve.
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous. Les mots d'Étienne Dao. Choisi par Marie-Amélie Seigné.
Avec ce très bel album qu'elle a dirigé qui s'appelle Unisex, dans lequel vous entendrez entre autres Gad Elmaleh, Nicoletta ou encore Dany.
Merci Julien Baldacchino, je vous dis à demain. Dans un instant, la Terre au carré, Mathieu Vidard et l'homme qui plantait des arbres, la fable de Jean Giono.